Vous êtes bien sûr Radio Orient, avec vous François-Xavier de Calonne, l'invité de Pluriel, Jean-François Rousset, député Renaissance de la 3e circonscription de l'Aveyron, ancien chirurgien. Bonjour monsieur, bonjour docteur.
Bonjour.
Vous êtes aussi élu local à Montlore, dans l'Aveyron. Alors cet été est marqué par des canicules à répétition, une sécheresse inédite par son ampleur. Jean-François Rousset, vous vous intéressez aux questions liées à l'agriculture. Le Premier ministre a évoqué sa stratégie en deux étapes pour aider les cultivateurs, les éleveurs et producteurs. Mais aujourd'hui, de nombreuses questions restent en suspens, hein, notamment sur les filières prioritaires ou encore les critères qui donnent accès aux aides. Or, il y a urgence aujourd'hui pour les agriculteurs.
Oui, les agriculteurs ont vécu un été terrible, mais la population aussi d'ailleurs, puisque les gens ont eu l'impression d'être obligés de se confiner à nouveau, tellement les températures étaient élevées, interdisaient toute activité, en particulier les après-midi. Moi, le Sud Aveyron, c'est un territoire d'élevage, de pastoralisme, de brebis, puisque l'essentiel de l'activité, c'est la production de lait pour le fromage de Roquefort. Et effectivement, les températures ont impacté directement nos agriculteurs, puisque ils ont l'habitude de les nourrir avec leur production herbagère, à laquelle ils apportent très peu de compléments, et surtout de les sortir dans la journée, puisque ça fait partie du cahier des charges de l'AOP Roquefort. Et là, cet été, ils ont subi donc les conséquences de cette chaleur inhabituelle. Ils ont essayé de sortir les brebis dans les bois, mais par exemple, je connais un agriculteur qui a vu 6 de ses brebis tuées par le prédateur, qui est le loup, donc qui est présent aussi maintenant dans le Sud Aveyron. Et ils ont entamé les réserves qui étaient destinées à passer l'hiver en termes de fourrage. Et donc, c'est très préoccupant. Et je connais un agriculteur personnellement qui commence peut-être à se séparer d'une partie de son cheptel, puisque les brebis qui sont un petit peu âgées, donc a priori moins productives, il va les vendre. Et les brebis jeunes qui devraient être pleines, c'est-à-dire porter un ou deux agneaux, et ben ils vont s'en séparer parce que elles n'apporteront pas la ressource attendue. Voilà, donc c'est
Et là, c'est son mode de vie qui est bouleversé, pouvoir d'achat qui est fortement amputé avec cela.
Pouvoir d'achat. Et puis surtout, moralement, c'est très difficile parce que les difficultés s'accumulent. Après les difficultés liées donc à l'augmentation des charges, liées à l'augmentation de l'énergie, liées à l'augmentation du prix du gasoil, du prix des intrants, et même si en Aveyron, ils n'utilisent pas beaucoup d'intrants, pas beaucoup d'engrais, ils subissent quand même de plein fouet. Et ce qu'ils me disent, c'est que là, pour le moment, c'est dur, très dur. Il y a une négociation sur le prix du lait qui se passe pas très bien pour la filière Roquefort avec l'industriel Lactalis, puisqu'on leur proposait d'emblée des diminutions de 20 euros par 1000 litres de lait de brebis produit. Ça dit rien, mais si je vous dis que ça représente pour un troupeau moyen du Sud Aveyron de 300 brebis, ça fait un manque à gagner de 1800 euros par an. Donc c'est pas négligeable. Et ce qu'ils disent donc, c'est que ces difficultés vont toutes éclater en même temps vers de grandes difficultés à la fin de l'automne, voire novembre-décembre. Parce que là, il va falloir payer, il va falloir taper dans la trésorerie, et donc ils sont vraiment très très inquiets.
Et justement, quelles mesures urgentes il faut aujourd'hui mettre en place, hein? Je rappelle que vous êtes aussi élu local, donc à Montlore, cette commune qui compte environ 700 habitants, et c'est aussi une commune vulnérable à différents aléas naturels, des inondations, mais aussi, en l'occurrence, cet été, une forte sécheresse.
Alors, la commune elle-même est dans le Rougier, dit de Camarès ou de Montlore. Elle est exposée donc à des phénomènes cévenols. C'est historique, mais ces phénomènes cévenols amènent actuellement une plus grande quantité de pluie en un temps encore plus court et sont imprévisibles. Et donc ça amène une érosion importante des terres arables, mais surtout aussi des dégâts dans l'île de la rivière. Donc ça pose un problème. Et c'est le sujet qui, à mon avis, est un sujet d'actualité, et qui est un sujet qu'il faudra prendre dans le bon sens avec tous les interlocuteurs sur ce sujet, c'est celui de l'eau. L'eau, ça va être un enjeu sociétal, politique, économique, structurant. C'est-à-dire que chez nous, par exemple, tombe beaucoup d'eau, et les gens disent qu'il faudrait en garder une partie pour en faire un usage multiple, intelligent. D'abord, permettre aux gens de boire de l'eau de qualité, ensuite permettre aux bêtes de s'abreuver, ensuite permettre aux cultures qui nécessitent une irrigation raisonnable chez nous puissent être irriguées. Et ensuite, aussi, assurer un certain étiage des ruisseaux et des cours d'eau. Moi, j'ai pris des photos cet été qui montrent que les ruisseaux qui sont en relation avec quelques retenues collinaires qui assurent un étiage, il y a une bande de verdure autour de ces ruisseaux jusqu'au confluent avec la rivière qui est le Dourdou. Donc ça nécessite, maintenant, on est au pied du mur, donc il faut trouver des moyens de trouver ce qui a été voté dans la loi d'urgence agricole hein, récemment.
Et on se souvient, hein, par exemple, d'Emmanuel Macron qui parlait de la fin de l'abondance. Alors là, il parlait de la question de l'énergie et de l'électricité. Aujourd'hui, cela concernerait aussi l'eau.
C'est-à-dire que l'eau est un réservoir d'électricité. Nous, dans le Sud-Aveyron et dans le Nord-Aveyron, on a deux complexes hydroélectriques qui remontent aux années 60 qui sont éminemment performants. Mais on pourrait les rendre encore plus performants, et c'est dans les cartons. Et la loi qu'on a votée en juin de cette année, qui permet donc à la fin des concessions, permettra à EDF de réinvestir dans ces structures sous le biais d'une autorisation, permettra de développer la puissance de ces usines hydroélectriques qui sont mobilisables en quelques minutes et qui permettent d'assurer une tension très importante pour stabiliser tout le réseau. Le réseau français, je ne parle pas de réseau aveyronnais. Et ensuite, ça permet aussi donc d'alimenter, de maintenir ces réserves, puisque les barrages ont été construits dans les années 60, là, il n'est pas question de refaire des barrages, mais de bien utiliser l'eau, de maintenir aussi de l'étiage, etc. Donc, effectivement, l'eau est un vrai sujet à la fois sociétal, mais aussi économique, puisqu'il y aura des retombées économiques pour les communes qui ont la chance d'avoir ces structures.
Et est-ce que les candidats du Bloc central aujourd'hui sont au niveau sur cette question? On se souvient des propos polémiques de Monique Barbu, la ministre de la Transition écologique, qui a estimé que la France insoumise proposait le programme le plus solide en matière d'écologie. Hein. Cela, ça fait beaucoup de mal à votre mouvement.
Moi, je fais partie des députés, puisque je suis issu de la ruralité, d'un territoire très agricoles, qui disent l'écologie appartient à personne, ni à Mélenchon, ni à Marine Le Pen, et même pas à nous. C'est-à-dire que les sujets sont tellement prégnants qu'il faut accepter d'en discuter et d'être positif et de faire ce qu'il faut faire. On a probablement perdu du temps, quoique depuis 2017, la France n'est pas quand même le dernier pays, on est plutôt le premier pays à avoir diminué de façon notable les émissions de gaz à effet de serre, et l'Europe aussi, donc on n'a pas trop à rougir, nous, de notre action, même si on n'est pas allé assez loin, et tout le monde a bien conscience, mais il faut arrêter de stigmatiser ce qui a été fait, il faut faire plus, mais il faut faire plus en évitant de cliver. J'ai l'impression qu'à la fois la France insoumise et d'autres partis sont peut-être un peu trop clivants et risquent encore une fois de faire en sorte, malheureusement, que l'écologie passe au second plan alors qu'elle devrait être intégrée dans tous les programmes, mais de façon très pragmatique.
Là, en l'occurrence, hein, c'était une déclaration d'une ministre, donc d'une membre du gouvernement. Quand Jean-Luc Mélenchon relance son programme, son projet de république écologique, il veut remplacer les régions actuelles par 13 éco-régions, des régions organisées autour des bassins versants. Est-ce une proposition que vous pourriez reprendre ou que vous ou votre candidat pourrait reprendre?
Je pense que c'est pas un sujet d'actualité, il n'y a pas urgence. La réforme des régions remonte à la nôtre, c'est François Hollande, enfin, ces régions sont en train de trouver une forme de fonctionnement. On ne dit pas que tout est parfait. Là, quand on a regroupé le Languedoc, Roussillon et Midi-Pyrénées, ça fait une région énorme qui n'est pas exactement structuré de la même façon, puisque d'un côté le Languedoc, c'est un pays de très méditerranéen, de cyprès, de garrigues, de vignes, et plus on va vers le nord et l'ouest de la région, c'est un pays d'élevage, de culture, etc. Mais c'est pas le sujet de l'histoire des bassins versants. Quand on voit comment fonctionne, par exemple, le syndicat de l'eau à Adour-Garonne, je répète, à Adour-Garonne, quelqu'un a regardé une carte pour dire à quoi correspond Adour-Garonne, c'est le versant de la Garonne. Donc il y a des régions qui sont déjà structurées par le biais de l'organisation des syndicats de l'eau sur les bassins versants. Je pense que les réflexions sur, je vous le disais tout à l'heure, et les projets qui permettent qui permettront de trouver une harmonie de fonctionnement, de répondre aux nécessités actuelles, sont des sujets qui sont étudiés en France, et on a cette chance depuis les années 50, depuis l'après-guerre, depuis la construction des barrages hydroélectriques et depuis la mise en œuvre d'une gestion de l'eau potable. Voilà, donc je pense que c'est un effet d'annonce, c'est une façon de dire il faut revoir les régions. Bon, voilà.
Et la gauche radicale n'a pas le monopole de ces questions, c'est aussi le message que vous délivrez.
Moi, je pense que dans la situation actuelle de la France, dans la situation de l'Europe et du monde, refaire les régions, ça ne me paraît pas actuellement le point le plus important. Ça coûterait une fortune, en temps administratif, enfin, et puis pour quel résultat? Améliorons les résultats, améliorons le fonctionnement des régions, allons peut-être un peu plus loin, puisque nous, on avait proposé de faire de la d'aller plus près des territoires, de lever un petit peu l'hégémonie administrative parisienne et même les capitales des grandes régions que sont Toulouse et Montpellier pour l'Occitanie. Allons vers plus de pragmatisme au niveau des départements, des communautés de communes. Peut-être réfléchissons à une structure administrative en supprimant un des éléments, mais est-ce que c'est vraiment ça qu'il faut faire ou est-ce qu'au contraire, il ne faudrait pas mieux réfléchir à la répartition des compétences et l'usage des compétences entre la région, l'État, la région, le département, les communautés de communes et les communes. Je pense qu'il y a...
Mais tout ce que vous dites, Jean-François Rousset, c'est passionnant et ce sont d'ailleurs des sujets de fond qui devraient être débattus lors de cette campagne présidentielle.
Dans notre groupe, on a des réunions régulières et heureusement, et ce sont des sujets qu'on aborde. C'est pas ma parole à moi. Moi, c'est ce que je pense profondément. Mais mon groupe politique, on est un certain nombre à penser qu'il faut aller vers plus de simplification, on n'arrête pas de le dire, de plus de pragmatisme local, de supprimer peut-être un des éléments du millefeuille territorial, transférer des compétences, et même certains évoquent d'imaginer de nouvelles compétences.
Et vous le dites aujourd'hui au micro de Radio Orient, et cela doit être mis en lumière dans l'ensemble des médias, tout ce que vous dites là aujourd'hui au cours des 8 mois à venir avant la présidentielle.
Je vous remercie de me donner l'occasion de le dire, et puis chaque fois que j'aurai l'occasion de le dire, ou que nous aurons l'occasion de le dire, d'ailleurs je crois que Gabriel Attal le dit dans cette prise de parole, voilà, quand il dit il faut une rupture avec ce qui a été fait, il accepte aussi d'avoir été Premier ministre, ministre de l'Éducation, ministre du Budget, etc. Mais il considère que, bien sûr, on a fait, mais on n'a pas fait assez. Et on le voit bien, en termes de santé, en termes d'organisation territoriale, d'éducation, enfin, sur les sujets...
En termes de santé, Jean-François Rousset, justement, vous êtes médecin, ancien chirurgien. Le premier quinquennat d'Emmanuel Macron a été marqué par la pandémie de Covid-19. La France a été confinée, le quoi qu'il en coûte activé. À l'époque, l'ensemble des responsables politiques avaient souligné que le secteur sanitaire devait être une priorité. La pré-campagne a démarré en France. Les questions liées à la santé et au personnel de santé sont pour le moment quasi absentes du débat.
Elles vont ressurgir dans le débat, mais vous ne pouvez pas dire qu'il ne s'est rien passé, puisqu'on a levé en 2018 le numerus clausus, c'est-à-dire que le nombre d'étudiants a augmenté régulièrement. Je crois qu'actuellement, on doit être à 14 000 ou 16 000 étudiants en médecine. Le nombre de médecins installés entre 2025 et 2024, médecins généralistes installés, a grimpé de 42%. 98% des malades en affection de longue durée ont un médecin référent. Il y en avait 10% il y a 10 ans. La rentrée, en novembre 2026, vont être développés les docteurs juniors. Les docteurs juniors, ce sont des médecins généralistes qui, pour valider leur diplôme de médecin généraliste, devront passer la thèse, ils ont la thèse, et devront aller faire leur dernière année de stage dans des endroits où il manque des médecins, en compagnie d'un maître de stage universitaire, qui est un médecin généraliste qui accepte de les prendre en charge, et il va y en avoir 3500 dans le pays, 350 en Occitanie, une vingtaine en Aveyron. Ces jeunes, ils vont rester un an, et au bout d'un an, soit ils s'installent, soit ils seront remplacés par un autre. C'est une réponse à ce qu'on appelait autrefois, à tort, les déserts médicaux. On ne peut pas dire que rien n'a été fait. On a fait des lois pour partager les compétences médicales. C'est-à-dire qu'actuellement, les aides-soignantes, les infirmières surtout, qui ont d'ailleurs bénéficié d'une loi qui revoit entièrement leur statut, permettent de faire des choses que les médecins faisaient et elles seront rémunérées pour les faire. Les sages-femmes peuvent faire des avortements en dessous du niveau 2. Elles peuvent dépister les cancers du col. Elles peuvent vacciner contre le HPV virus pour éradiquer le cancer du col. Les kinés, on peut aller les voir directement, prise en charge par la Sécu pour 10 séances sans passer par la case de médecin. Tout ça, ça a permis de gagner du temps médical et ça commence à se voir dans les structures comme les CPTS ou les maisons de santé. Donc c'est vrai qu'on a, il y a beaucoup de choses à faire. Le budget de la Sécu est un vrai budget, il va falloir en discuter encore dans le cadre du PLFSS. On est pas loin de 25 milliards de déficit, mais en fait, ce sont des sujets. On peut pas continuer à faire une politique des rustines. Il va y avoir un débat de fond sur la santé. Comment faire pour faire plus de prévention? Puisqu'on sait que la prévention, c'est un coût diminué 10 ans après. Donc, tous ces sujets vont faire partie de la campagne. Moi, je serai très actif dans cette campagne auprès de mon groupe, de Gabriel Attal, pour faire avancer ces sujets.
Vous soutenez, hein, je le rappelle, hein, l'ancien Premier ministre Gabriel Attal, qui reste candidat. Est-ce que les Français peuvent entendre encore ce discours qui dit à la fois, donc vous le dites, hein, plus de services publics, plus de pouvoir d'achat aussi, notamment pour les agriculteurs, hein, victimes de cette sécheresse, et moins de déficit? Comment boucler un tel budget?
On ne dit pas plus de services publics, on dit des services publics qui marchent mieux. C'est-à-dire que 1 euro dépensé doit être mieux dépensé, et probablement des équilibres à trouver en termes de fonctionnement. Ensuite, il faut prévoir des investissements qui vont permettre de créer de la valeur ajoutée, parce que sans création de valeur ajoutée, on n'aura pas les moyens de financer notre protection sociale, qui est parmi une des meilleures du monde. Et donc, il faut créer des emplois, il faut que le travail rapporte, il faut que le travail rapporte plus que le non-travail. Et tout ça, ça va permettre d'alimenter effectivement le budget. Ce sont des réformes qui doivent s'enchaîner les unes avec les autres. Et il y a des capacités d'économie productive qui vont justement permettre aux services publics de mieux fonctionner. Et puis, quand on parle de la santé, par exemple, pourquoi toujours opposer le public au privé ? Le privé, dans des endroits, est nécessaire parce qu'il n'y a pas de service public. Dans d'autres endroits, c'est le service public qui est prédominant. Et il faut faire fonctionner les deux. Il faudrait arriver un jour à aller vers une convergence des rémunérations publiques-privées aux compétences, au travail fait, si vous voulez. Voilà. Donc il y a vraiment des pistes. Il faut sortir. Bon, mais après, c'est vrai que l'enchaînement qu'on a connu des gilets jaunes, puis de la Covid, etc. Et on pesait sur la capacité de décider. Donc au total, il a fallu s'adapter à des circonstances difficiles et faire des ajustements pas à l'échelle nécessaire. Et je pense et je crois que la campagne de la présidentielle, cette élection présidentielle, permettra d'aller vers plus de changements. On est devant un mur sur beaucoup de sujets. Donc ce mur, il faut... La France est un grand pays, on a des moyens, on a des ingénieurs, on est ouvert au monde, on a une capacité à produire, à réagir, à éduquer. Donc il faut savoir quand même bénéficier de tout ça et surtout le valoriser.
Merci beaucoup, docteur Jean-François Rousset. Merci d'avoir abordé avec nous ces sujets de fond, ces sujets qui intéressent directement les citoyens. Un grand merci Jean-François Rousset. Je rappelle que vous êtes député Renaissance de la 3e circonscription de l'Aveyron, ancien chirurgien, et vous êtes élu local à Montlore dans l'Aveyron. Merci à vous, chers auditeurs, et très bonne suite de programme à l'écoute de Radio Orient.